Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, au micro Idrissa Seydoudia, bonjour. Le chef du groupe djihadiste État islamique au Grand Sahara, Adnan Abou Walid al-Sahraoui, a été tué par les forces françaises. Un succès majeur a annoncé hier soir le président Emmanuel Macron. Nous y reviendrons avec Michel Joseph, Bagasikoura et Idriss Fall. L'ONU a ordonné ce mercredi le retrait des quelques 450 casques bleus gabonais de la MINUSCA, sa force de maintien de la paix en Centrafrique, après des accusations d'exploitation et d'abus sexuels. Le gouvernement gabonais a ouvert une enquête sur de telles allégations, selon le ministère de la Défense, dans un communiqué à l'AFP. En République démocratique du Congo, une manifestation d'opposition interdite par les autorités a été rapidement réprimée hier à Kinshasa par la police qui a procédé à des interpellations. Selon des photos et vidéos sur les réseaux sociaux, un correspondant congolais de RFI, Patient Ligodi, a été brutalement interpellé. C'est ce qu'ont dénoncé dans un communiqué les correspondants congolais de la presse internationale en RDC en exigeant que les policiers auteurs de ces brutalités soient arrêtés et poursuivis. 1 million d'enfants nigérians risquent de ne pas pouvoir aller à l'école en raison de la menace de violence après une série d'enlèvements massifs contre rançon et d'attaques visant des étudiants cette année. Selon l'UNICEF, il y a eu cette année 20 attaques contre des écoles au Nigeria et plus de 1400 élèves ont été enlevés et 16 sont morts. Les réfugiés érythréens ont été victimes d'exactions, notamment d'exécutions sommaires et de viols, qui constituent des crimes de guerre manifestes durant le conflit qui fait rage dans le nord de l'Éthiopie, estime Human Rights Watch dans un rapport publié ce jeudi. L'ONG y détaille le rôle des soldats érythréens ainsi que des combattants rebelles de la région éthiopienne du Tigré dans ces exactions à grande échelle, également marqué par des rapatriements forcés et d'importantes destructions dans deux camps de réfugiés. Tous les dirigeants et diplomates participants à l'Assemblée générale de l'ONU du 21 au 27 septembre à New York devront montrer une preuve de vaccination contre le COVID-19 en vertu des règles en vigueur dans la ville. Une obligation qui a suscité la colère de Moscou, qui y voit une mesure clairement discriminatoire. Cuba entamera ce jeudi les contacts avec des experts de l'OMS pour obtenir la reconnaissance de ses vaccins anti-Covid Abdallah et Soberana 02, un processus qui facilitera leur commercialisation à l'étranger, selon un responsable du groupe pharmaceutique d'État BioCuba Pharma. L'Union européenne va donner 200 millions de doses supplémentaires de vaccins aux pays pauvres d'ici mi-2022, s'ajoutant aux 250 millions de doses déjà promises, a annoncé la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Et si dans l'UE, plus de 70% des adultes sont vaccinés, moins de 1% des doses de vaccins ont été administrées dans les pays pauvres, a-t-elle souligné. Les États-Unis, qui cherchent à renforcer tous azimuts leur alliance face à la Chine, ont annoncé hier avec l'Australie et le Royaume-Uni un vaste partenariat de sécurité dans la zone Indo-Pacifique, comprenant notamment la livraison de sous-marins à propulsion nucléaire à Canberra. L'Australie a par la suite rompu un gigantesque contrat conclu avec la France pour la fourniture de sous-marins conventionnels, provoquant la colère de Paris. 4 touristes spatiaux américains ont débuté ce mercredi un incroyable voyage en apesanteur dans un vaisseau de SpaceX où ils doivent passer 3 jours en orbite autour de la Terre sans aucun astronaute professionnel à bord. La suite de nos informations. Le chef du groupe djihadiste État islamique au Grand Sahara, Adnan Abou Walid al-Sahraoui, a été tué par les forces françaises, a annoncé hier dans la nuit le président français Emmanuel Macron. Le point avec Michel Joseph.
Il s'agit d'un nouveau succès majeur dans le combat que nous menons contre les groupes terroristes au Sahel, a écrit hier sur Twitter le président français Emmanuel Macron. Le groupe État islamique au Grand Sahara est considéré comme l'auteur de la plupart des attaques dans la zone des trois frontières entre le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Il avait pris pour cible les soldats américains dans une attaque meurtrière en octobre 2017 à Tango Tango, au Niger. De son vrai nom, Lay Bib Ould Ali Saïd Ould Youmani, est né d'une riche famille commerçante à Laayoune, au Sahara occidental. Jeune, il a fui vers les camps de réfugiés sahraouis en Algérie, où il a été recruté par le Front Polisario. Qui lui assure une formation militaire. Le reste de sa formation idéologique se fera à Nouakchott en Mauritanie, puis à Tindouf en Algérie. Puis il va intégrer une Katiba, ou unité combattante d'Al-Qaïda au Maghreb islamique. En 2012, il fait déjà partie des cadres du Moujao, le mouvement pour l'unicité de Dieu et le djihad en Afrique de l'Ouest, qui a occupé Gao dans le nord malien. C'est lui qui a organisé l'enlèvement des 9 employés du consulat d'Algérie dans cette ville et ils roulaient dans la voiture du consul algérien qu'il gardait en otage. Après l'opération française Serval en 2013, il a dispersé les djihadistes au Mali. Il fera un passage au sein du groupe des Mourabitoun, du redoutable Mokhtar Belmokhtar, alias Le Borgne, puis en 2015... Il fera allégeance à Abu Bakr al-Baghdadi, qui va le nommer émir du groupe État islamique au Grand Sahara. Depuis quelques semaines, il y avait des rumeurs sur sa mort, et c'est le président français lui-même qui vient de le confirmer.
Au Sénégal, 2 membres du mouvement citoyen Yanamar sont placés sous mandat de dépôt. Les 2 rappeurs ont été inculpés hier de trafic de migrants et d'associations de malfaiteurs, selon leurs avocats. Les détails avec Jacques Aristide.
Landing Bessanse, Kadiki Lifeu et Simon Kouka sont détenus depuis la semaine dernière. Hier, le juge d'instruction a retenu 10 chefs d'accusation contre les 2 rappeurs et un autre co-prévenu. Ils seront entendus la semaine prochaine sur le fond du dossier, d'après l'un de leurs avocats, Abdoulaye Tal. Kilifeu, accusé d'avoir facilité, moyennant finance, l'obtention de visa, est également poursuivi pour tentative de faux dans un document administratif. Simon Kouka, qui aurait loué son passeport français, est lui inculpé notamment de complicité d'usage de faux. En août dernier, une vidéo montrant Kilifeu en train de recevoir une somme d'argent pour l'obtention d'un visa a été diffusée en ligne. La vidéo a été tournée par le 3e prévenu, selon les médias. Les 2 rappeurs sont des membres fondateurs du mouvement Yanamar, qui entend promouvoir le civisme en incitant les citoyens à voter et milite pour le renouvellement de la classe politique et la lutte contre la corruption. Yanamar a activement pris part à la contestation politique mêlée d'exaspération sociale et économique aggravée par la pandémie de Covid-19 qui a secoué le Sénégal en mars dernier.
Un haut responsable américain appelle les dirigeants libyens à saisir la meilleure opportunité qui se présente en une décennie pour mettre fin au conflit avec les élections prévues en décembre. Le point avec Abdourahmane Dia.
En visite à Tripoli, Derek Chollet, conseiller du département d'État, a indiqué qu'avec les élections à venir, la Libye a une occasion pour mettre fin au conflit, faire avancer l'économie et jeter les bases d'une société démocratique stable. Il a promis le soutien continu des États-Unis au processus électoral qu'il qualifie de vital. La Libye tente de sortir d'une décennie de violence et de lutte au pouvoir. après un accord de cessez-le-feu entre autorités rivales conclu en octobre 2020. Un gouvernement transitoire a été installé sous la houlette de l'ONU en début d'année pour mener le pays à un scrutin présidentiel et législatif annoncé pour le 24 décembre. Mais les divisions ont rapidement refait surface, rendant de plus en plus hypothétiques ces élections. La signature le 8 septembre par le président du Parlement libyen, Aguila Saleh, du texte de loi relatif à l'élection du chef de l'État sans passer par un vote a suscité la colère du Haut Conseil d'État qui fait office de Sénat et de plusieurs députés qui ont dénoncé cette démarche unilatérale.
Le point sur la pandémie de coronavirus dans le monde, le nombre de cas et de décès a baissé partout. Seule la région Afrique a signalé une hausse du nombre de morts. L'Union européenne va donner plus de doses et le pape a qualifié de négationnistes les cardinaux refusant de se faire vacciner, Claire Morin-Gibourg.
Avec près de 4 millions de nouveaux cas rapportés la semaine dernière, l'OMS se réjouit de la baisse substantielle depuis plus de 2 mois. Toutes les régions du monde ont signalé une baisse, sauf l'Afrique. L'Union européenne va donner 200 millions de doses supplémentaires de vaccins aux pays pauvres d'ici mi-2022, a annoncé Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne. En France, l'obligation vaccinale est entrée en vigueur pour les professionnels de la santé, les travailleurs dans les maisons de retraite, les aides à domicile et les pompiers. Au Brésil, l'accès au site de Rio de Janeiro, capitale touristique, ou aux salles de sport est conditionné depuis ce mercredi à la présentation d'un pass sanitaire. L'entrée en vigueur de ce pass aurait dû avoir lieu le 1er septembre, mais la mairie l'a repoussé de 15 jours en raison de problèmes techniques. Le pape François a qualifié de négationnistes les cardinaux qui ne souhaitent pas se faire vacciner. Il fait allusion au cardinal américain ultra-conservateur Raymond Burke, l'un de ses plus farouches adversaires de la vaccination au sein de l'Église catholique aux États-Unis.
La Minute Éco, Nathalie Barge.
La Côte d'Ivoire a lancé une opération de contrôle au sein de la fonction publique dans des secteurs touchés par la corruption, a annoncé cette semaine Zoro Epiphane Ballo, ministre de la promotion de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption. Les secteurs concernés sont le transport, la santé, la justice, la construction et la sécurité. Une conférence de presse est prévue vendredi pour communiquer des cas de corruption au sein des forces de défense et de sécurité. Au Togo, dans un projet de loi adopté hier en Conseil des ministres, les délais de passation de marchés publics ont été réduits de 180 jours à 90 jours. Il sera aussi réservé une quote-part non encore précisée de marché public aux petites et moyennes entreprises, après les jeunes et les femmes entrepreneurs qui bénéficient d'une quote-part de 25% des marchés publics depuis 2019. L'Association internationale de développement a accordé au Cameroun un prêt de 29 millions de dollars pour financer le projet de réponse à la pandémie de coronavirus avec un taux d'intérêt de 1,65%.
Merci Nathalie. Et maintenant les sports avec Yacouba Ouédraogo.
Bonjour à tous. Que se passe-t-il avec le Sénégal et son sélectionneur Aliou Cissé? Sans contrat, en tout cas sur le papier, depuis le 31 août dernier, date d'expiration de son bagne scié, en janvier 2019, Aliou Cissé dirige pourtant les Lions de la Teranga qui ont remporté leurs 2 premiers matchs en éliminatoire du Mondial 2022 depuis septembre. Pourquoi le contrat du sélectionneur sénégalais n'est pas encore renouvelé? La réponse est purement administrative selon Papa Malik Diaw, journaliste sportif à Immédiat que nous avons joint à Dakar au Sénégal.
Il n'y a aucun souci concernant le contrat d'Aliou Cissé à la tête de l'équipe nationale du Sénégal. Rappelez-vous, il avait été renouvelé juste avant la dernière Coupe d'Afrique des Nations 2019, un contrat qui devait prendre fin à l'issue de la Cannes 2021, mais celle-ci devait avoir lieu en juin et juillet. Cette Coupe d'Afrique des Nations a donc été repoussée au mois de janvier-février. Le contrat est donc en cours. cours, hein, le contrat qui est en cours par tacite reconduction jusqu'à la fin de la Coupe d'Afrique des Nations. Autrement dit, son contrat sur papier prend fin, ou bien a pris fin le 31 août dernier, mais avec cette Coupe d'Afrique repoussée, eh bien son contrat va continuer jusqu'à la fin de la Coupe d'Afrique des Nations.
Papa Malik Diaw, journaliste sportif à Immédiat à Dakar. Suite hier des matchs de la première journée de la Ligue des Champions en Europe, le Paris Saint-Germain du trio Messi-Neymar-Mbappé a été freiné à Bruges 1-0. Manchester City a débuté en fanfare en expédiant Leipzig 6-3 malgré un triplé de Christopher Nkunku qui a longtemps maintenu le RB Leipzig dans le match. Match fou à Anfield où Liverpool de Sadio Mané, Mohamed Salah et Naby Keita et l'AC Milan de l'Ivoirien Franck Kessié se sont rendus coup pour coup. Score final 3-2 pour Liverpool. À Madrid, l'Atlético n'a pas réussi à se dépêtrer du FC Porto malgré sa recrue Antoine Griezmann 0-0. Irrésistible Erling Haaland, le meilleur buteur de la Ligue des Champions l'an dernier avec 10 réalisations, est reparti sur les mêmes bases en marquant lors de la victoire 2-1 de Dortmund à Istanbul sur le terrain de Beşiktaş. À égalité de points en tête du groupe C, on retrouve l'Ajax qui a écrasé le Sporting Portugal chez lui à Lisbonne grâce au quadruplé d'un débutant dans la compétition, l'Ivoirien Sébastien Hallé. L'éléphant s'installe au passage seul en tête du classement des buteurs de la Ligue des Champions. L'Inter de Milan a trouvé sa bête noire au Real Madrid. L'attaquant brésilien Rodrigo qui, comme la saison dernière, a offert la victoire aux Espagnols en crucifiant les Nerazzurri 1-0 en toute fin de match à San Siro. Le shérif Tiraspol a créé la surprise en battant le Shakhtar Donetsk 2-0 dans le premier match de son histoire dans l'épreuve reine européenne.
Merci Yacoub. Le Monde Aujourd'hui, VOA Afrique, en votre compagnie Idrissa Seboulia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Retour sur la mort du chef du groupe djihadiste État islamique au Grand Sahara, hier soir dans un... Le président français Emmanuel Macron a annoncé qu'Adnan Abou Walid al-Sahraoui avait été neutralisé par les forces françaises, tué, a précisé l'Élysée. Le président français ajoute que sa mort est un nouveau succès majeur dans le combat que nous menons contre les groupes terroristes au Sahel. Qui est donc Adnan Abou Walid al-Sahraoui ? Bagassi Koura en discute ici avec Idriss Fall, rédacteur en chef de VOA Afrique, qui avait rencontré ce djihadiste lors d'un reportage dans le nord du Mali.
Il est né en fait au Sahara occidental. Il a fait ses premières armes à l'intérieur des jeunesses du Front Polisario. C'est là-bas où il a appris le maniement des armes. Et il est issu d'une famille relativement aisée de Sahraoui et avec les problèmes du Polisario avec le Maroc. Il est parti dans les camps de réfugiés en Algérie. Il a fait des études en Mauritanie. C'est même là-bas, dans certaines universités, où il s'est radicalisé. Je l'ai retrouvé en 2012 à Gao.
Au nord Mali.
Au Mali, absolument. Dans le nord du Mali, occupé par des djihadistes. Et que, donc, lui, il habitait pas loin du marché Washington de Gao, et que c'était le chef de la police religieuse. Et que je me rappelle, quand je l'ai vu la première fois, il roulait dans la voiture du consul d'Algérie qui venait d'être kidnappé avec 9 Algériens pendant la prise de Gao par les djihadistes. La deuxième étape, c'est qu'après, avec les autres gros patrons du mouvement djihadiste en Afrique de l'Ouest, qui s'appelait Mokhtar Belmokhtar et autres, je pense qu'ils ont voulu prendre Bamako. Ils sont descendus vers Sévaré, ils ont lancé une offensive, et la France est intervenue pour les arrêter. Le Moussaou s'est dispersé dans toute cette dynamique que vous avez connue, et lui, donc... Après, il s'est transformé, c'est-à-dire il a rejoint les Mourabitounes de Mokhtar Belmokhtar pendant peut-être un an ou deux ans. Et après, il a fait allégeance au groupe État islamique en Afrique de l'Ouest, et il s'est fait nommer émir du groupe État islamique au Grand Sahara.
On lui attribue certains des grands massacres dans la région des Trois Frontières ces dernières années.
Mais absolument, parce que à un moment donné, je pense pour tous les massacres qu'il y a eu au niveau de Menaka et dans la région contre une faction des Touaregs. Des Touaregs qui étaient relativement opposés à un certain Iyad Agali. Donc lui, en fait, son nom était là. On dit qu'il a organisé cette attaque en 2017 où 4 soldats américains ont été tués à Tongo là-bas et qu'il naviguait dans cette région-là, c'est-à-dire entre le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Et n'oubliez pas que ça fait peut-être 2 ou 3 semaines, il y avait beaucoup de tweets ou beaucoup d'informations disant qu'il était mort. Bon, on ne pouvait pas le confirmer. Je pense que la France a attendu peut-être de faire toutes ces analyses de DNA et tout ce que vous voulez pour confirmer. Et l'annonce a été faite non pas par la ministre de la Défense de France, Florence Parly, mais par le président français lui-même, Emmanuel Macron.
Idriss Fall, rédacteur en chef de VOA Afrique. En Guinée, les militaires qui ont pris le pouvoir poursuivent leurs consultations tous azimuts pour définir le contenu d'une transition censée ramener les civils à la tête du pays. Mercredi, ce sont les représentants de la société civile, ceux de la diaspora et ceux des représentations diplomatiques qui ont été reçus par la junte. Les responsables des partis politiques ont pris part au pourparlers de mardi. Parmi eux est joint par Yacouba Ouédraogo, Sélou Dalein Diallo, président de l'Union des forces démocratiques de Guinée.
Le président de la transition a décliné un discours dans lequel il a réitéré son souci de conduire une transition inclusive et apaisée. Et il souhaite à cet égard recevoir des propositions de tous les membres des forces vives.
Qu'est-ce que vous lui avez proposé?
Rien sur place. La féliciter pour le sursaut patriotique qu'il a eu en mettant un terme à un troisième mandat illégal et légitime que Alpha avait réussi à s'octroyer dans le sang et la douleur. On a réitéré notre discussion, à collaborer pour que notre pays puisse effectivement avoir droit à une transition apaisée et finira par des élections libres, transparentes et inclusives.
Qu'est-ce que vous attendez concrètement de ces échanges tous azimuts avec les différentes couches sociales de la Guinée?
Nous allons proposer d'abord peut-être quel cadre juridique et réglementaire pour aller aux élections et ensuite quel acteur, comment on règle les questions du code électoral, de l'organe de gestion des élections, du juge électoral, pour que ce soit des institutions indépendantes qui puissent effectivement dire le droit et arbitrer si nécessaire entre les compétiteurs. Ça, c'est le juge, mais la CENI aussi doit faire preuve d'indépendance. Et il faut que les personnes qui seront là soient au-dessus de tout soupçon et que ce soient des personnes crédibles, intègres et dignes de confiance.
La communauté internationale parle de transition dans un délai raisonnable. Est-ce que vous en avez discuté? Sinon, vous, qu'est-ce que vous entendez par délai raisonnable?
La première mission d'un gouvernement de transition, c'est d'organiser des élections libres et transparentes, inclusives, permettant au peuple justement de doter le pays d'institutions légitimes. Quel est le délai nécessaire à cela? Là, justement, dans la préparation de nos mémoires, nos équipes sont en train d'identifier les réformes et les actions à mener pour voir combien de temps il faut que ces actions puissent être menées à terme. Ce délai viendra justement de ce chronogramme, en quelque sorte. Le reste, maintenant, peut se négocier. Mais il ne faut pas confronter, moi je suis pour 3 ans, moi je suis pour 6 mois, moi je suis pour 1 an. Il faut que ça soit appuyé par un chronogramme. Voilà les actions qu'il convient de mener. Voilà le délai nécessaire pour conduire ces actions. Et maintenant, on pourra engager une discussion sur cette base.
Est-ce que vous avez confiance dans la junte au pouvoir?
Il ne faut pas avoir confiance à un homme, mais il ne faut pas aussi, a priori, dire qu'on n'a pas confiance. A priori, sur la base des actes qu'il a posés, des discours qu'il tient, on n'a pas de raison de douter de sa bonne foi. Il y a eu la libération des prisonniers politiques. 98% de ces prisonniers étaient des prisonniers issus de mon parti. Et Il a également rendu restituer mes bureaux et le siège de mon parti qui était occupé par l'armée depuis le 20 octobre 2020. Et l'autorisation de voyager de mes collaborateurs, de mon épouse et de moi-même qui étaient confisqués, ont été restitués. Donc ces actes-là aussi vont dans le sens de la décrispation et de la reconnaissance des droits et libertés des citoyens que nous sommes.
C'est Loudalène Diallo, président de l'Union des forces démocratiques de Guinée.
VOA Afrique, une fenêtre sur le monde.
Au Cameroun, recrudescence des rixes sur la voie publique opposant des civils aux policiers, gendarmes et militaires de service. Face à cette situation, les autorités ont décidé de faire désormais appliquer la loi contre tout contrevenant. L'opinion est cependant divisée sur la méthode choisie par le gouvernement. De Yaoundé, la correspondance d'Emmanuel Jules Tap.
C'est une députée. Faites attention.
Le 20 juillet 2021, dans une vidéo devenue virale, Nouran Fouting, député du PCRN, apparaît dans une vive altercation avec des policiers de service à Bafoussa. De sources policières, la députée avait tenté de démanteler une barrière de police érigée en raison de la présence du gouverneur de la région de l'Ouest sur le lieu de prière lors de la fête du Ramadan. L'altercation est loin d'être l'unique du genre. Ces derniers jours, sur la voie publique ou dans des véhicules de transport en commun, des civils ont pris à partie des éléments des forces de défense et de maintien de l'ordre, au point d'alerter le gouvernement.
Ces comportements irresponsables et méprisants ont atteint des limites inacceptables et ne peuvent plus être tolérés.
Paul Atanganji, ministre de l'administration territoriale.
Aucun citoyen ou un usager, quel que soit son rang social, n'a pas le droit d'exercer des violences contre un agent de police dans l'exercice de ses fonctions.
À Yaoundé, de nombreux citoyens pointent cependant le doigt accusateur sur les forces de maintien de l'ordre, dont l'attitude vis-à-vis de simples usagers n'est pas toujours empreinte de convivialité.
Quand tu es un homme en tenue, tu as affaire avec un civil, tu te responsabilises d'abord. Tu ne dois pas donner le coup de poing ou lui, il te donne le coup. On évite ça. Mais dans la majorité que j'ai vue, c'est le policier qui donne le premier le coup de poing.
Les policiers devraient aussi se limiter à leur travail parce qu'il y a des policiers qui sont vraiment arrogants. Tout le monde ne supporte pas, ils ne maîtrisent pas sa colère.
En fait, les Camerounais sont fatigués, fâchés même de l'intimidation que les forces de maintien de l'ordre les font subir.
Le policier est censé quand même protéger les citoyens. Si celui-là qui est censé les protéger ne le protège pas, au contraire, le bat, ça dit qu'il y a problème quelque part.
Le sujet préoccupe même les universitaires. Le professeur Paul Abouna est anthropologue et enseignant à l'université de Yaoundé 1.
Pour comprendre ce phénomène-là, il faut tout simplement l'envisager comme une sorte de désacralisation de l'État. Tout ce qui se livre à ce genre de déviance s'expose à un certain nombre de sanctions.
Des sanctions que le ministre de l'administration territoriale a tenu à rappeler au cours d'une conférence de presse à Yaoundé.
La peine est d'emprisonnement de 5 à 10 ans, une amende de 20 000 à 500 000. Si les violences ou les voies de fait sont préméditées, si les violences et les voies de fait entraînent non intentionnellement la mort, la peine d'emprisonnement est à vie. Si les violences et les voies de fait sont commises avec l'intention de donner la mort, le coupable est puni de mort.
Les gouverneurs des 10 régions du pays ont été instruits à veiller au strict respect de cette loi. Toutefois, les usagers peuvent appeler le numéro vert 1500 pour dénoncer les abus des forces de maintien de l'ordre. Yaoundé, Emmanuel Jungtap, VOA Afrique.
Augmentation des prix des produits alimentaires au Gabon, les prix de certaines denrées ont même doublé. Une hausse qui affecte surtout les ménages les plus démunis et qui est due essentiellement à des problèmes d'approvisionnement selon les commerçants. De Libreville, notre correspondant Ismaël Obiangze.
L'envolée des prix dans les grandes surfaces commerciales de Libreville est tout juste insupportable pour ce père de famille.
Le quart d'huile coûte maintenant 500 francs. Et ça, c'est parce que nous, les Gabonais, nous, le peuple, on a autorisé ça.
En dehors restaurants des huiles de cuisine, sur le marché, les prix des bananes, du manioc, des fruits et légumes ont presque doublé en un an. La difficulté d'approvisionnement des villes depuis les zones de production souvent éloignées et enclavées impacte les prix à l'étal. Surtout que la marchandise est dans certains cas transportée par voie ferroviaire. Une propriété de la société du Transgabonais, Cetrag. Yohan Ndinga est importateur sur la frontière Gabon-Congo.
Et quand la route est fermée, nous tous on est obligés de passer par Cetrag, mais avec ce prix qui est cher. Le conteneur, on le transporte par la route, c'est 2 millions, avec Cetrag, c'est 4,5 millions.
Le Gabon dépend largement des importations pour nourrir sa population, tandis que certains regrettent la faiblesse des organisations de consommateurs. La colère face à l'augmentation des prix est surtout relayée sur les réseaux sociaux. Libreville, Ismaël Obianzé pour VOA Afrique.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde. Aujourd'hui, VOA Afrique. Merci.